BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On est au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours sur BFM Business. On est en direct de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez depuis un autre fuseau horaire ou depuis l'étranger. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier, comme tous les jours. La question de la rénovation énergétique semble être là un des points de blocage du marché. On parle beaucoup de DPE dans cette émission. C'est un problème notamment pour vous, propriétaires bailleurs qui nous écoutez. Comment réagissent les professionnels aux différentes propositions des candidats? On va reparler des élections, notamment les propositions du RN. Au décryptage, Arnaud Accard, le président d'Immo Direct. Aujourd'hui, une demi-heure dédiée aux petites et moyennes valeurs. On va s'intéresser à notre CAC mid et small avec deux experts, Julia Bridger de Roland Corporate et puis Eric Lewin des publications Agora. 30 minutes pour faire le point sur la cote, les ups, les downs, mais aussi que faire très concrètement sur les small caps au deuxième semestre. On fera le point sur les OPA aussi. Tout ce qu'il faut savoir sur cette cote petite et moyenne, ce sera dès 11h30, dans moins de 25 minutes. Vous avez des questions, nous aurons des réponses. Deux moyens pour nous joindre. L'adresse directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Vous voulez qu'on décrypte une valeur en particulier, qu'on parle d'une entreprise qui vous intéresse, vous nous écrivez. On tâchera d'être très réactif pendant cette petite demi-heure. Avant cela, nous partons rejoindre Antoine pour faire le point sur notre CAC 40. Cher Antoine, le marché parisien qui reste dans le vert, une note bien positive, mais pas pour autant de soulagement et on reste prudent.
Non, on le dit encore une fois, le marché est en train d'évacuer une partie d'une prime de risque qui s'est installée durablement depuis deux semaines sur les marchés. Et vous voyez, on était en hausse de quasiment 2,5-3% à l'ouverture. Là, on réduit quand même nettement la vapeur, plus 1,43% à 7586 points. Ça commence d'ailleurs à s'affiner du côté des préférences sectorielles. Vu qu'on a un Euronext Tech Leaders qui sous-performe le CAC 40, on est en hausse que de 0,32%. Alors que du côté des autres places européennes, on a du 0,4%. Pour le DAX à Francfort, plus 0,9% pour l'Eurostock 50. Donc encore une fois, Paris surperforme. Il y a un effet positif quand même de tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Enfin, il ne faut pas oublier certains aspects techniques. On y reviendra dans quelques instants de ce qui se passe sur le marché obligataire. En tout cas, pour le moment, il est clair que ce sont les secteurs qui ont le plus souffert ces deux dernières semaines qui reprennent du poil de la bête. Et très très nettement, ça se voit notamment avec le secteur bancaire qui est en pointe. Société Générale, plus 4,4%. On est à 22,90. Crédit Agricole, plus 3,9% à 13,24. BNP Paribas, plus 3% à 61,33 €. À noter la bonne performance aussi des secteurs des services aux collectivités qui, eux aussi, ont été attaqués. Un Bouygues qui gagne 3,3% à 30,97 €. Également le BTP, les concessions. Engie gagne 3%, 13,74 €. On avait Olia, plus 2,97 € à 28,75 €. Et puis, on le disait, contre-performance de la techno avec notamment Dassault Systèmes qui recule de 0,57%, moins 0,03% pour ST Micro. Plus forte hausse du SBF 120, c'est Nexity qui gagne 6,2% à 8,86 € et Casino, plus forte baisse à moins 3,9% 3,43 €. Le CAC donc en hausse d'1,5%, 7591 points, l'euro 1,0766 $. Lorraine.
Antoine, on va le voir, pas de question, enfin on l'a vu plutôt, pas de question de parler de soulagement. Il faut revenir sur le sujet obligataire, ça va être l'objet de votre histoire financière.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Pas de soulagement, le marché obligataire nous le montre. Décryptage, Antoine.
Oui, alors d'ailleurs, c'est très très étonnant ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai que la dette française 10 ans s'est énormément tendue ces derniers jours. On a creusé l'écart de taux de manière assez spectaculaire avec l'Allemagne. On est monté au-delà des 80 points de base dernièrement, ce qui était un vrai niveau d'alerte dans le contexte monétaire européen. Maintenant, ce qui se passe ce matin est très intéressant. C'est-à-dire que oui, ça se tend un petit peu du côté de la dette française, et on dépasse à nouveau les 3,3%, 3,32, ce qui correspond à peu près au plus haut qu'on a pu avoir, notamment en fin d'année dernière, où il était encore question de très fortes poussées inflationnistes et d'hésitation sur ce que la BCE allait faire. Et là, ce matin, alors qu'on a une prime de risque qui reste quand même entière sur les marchés, on va le dire en deux mots, les marchés, ils n'ont pas voté ce matin. Ils ne se sont pas dit, ouf, on a une poussée de l'extrême droite. Ce serait totalement idiot de résumer les choses comme ça. Ils se sont dit, on écarte de la table deux options extrêmes qui sont majorité absolue du Rassemblement National ou très forte poussée du Nouveau Front Populaire et à ce moment-là majorité absolue du NFP. Et ces deux options sont quand même les plus délétères en matière de dérapage budgétaire et de déficit. Donc voilà, on sort ça de la table et c'est ça qui s'est passé. Donc le risque qui reste là, modéré, on va dire, par rapport à tout ce que le marché a vendu hein, ces dernières semaines, on n'a qu'une simple égalisation. Mais vous voyez, les tensions restent fortes et provoquent des déséquilibres. Parce que si ça s'est un tout petit peu tendu sur la dette française 10 ans à 3,32% là en ce moment, ça s'est beaucoup plus ressenti sur la dette allemande, qui monte à 2,57. On a gagné 7 points de base par rapport à la clôture de vendredi, même un peu plus, 8 points de base. Donc du coup, l'écart se réduit, mais parce que la dette allemande est en train de se tendre. Et voilà ce qu'explique en fait ce résultat étonnant hein, au lendemain de ce premier tour des législatives, c'est que la prime de risque, la France est en train de la transvaser à l'ensemble de la zone euro. Et ça va être très intéressant à voir parce qu'on est sur des mouvements qui restent éminemment volatiles. On l'a vu aussi, la tendance peut changer radicalement à la mi-journée avec l'entrée sur le marché des investisseurs américains. Mais on a cette prime de risque qui reste présente sur le marché français. Pour l'instant, elle ne s'aggrave pas trop. Elle provoque même des réalignements sur l'ensemble des valeurs qui ont été vendues de manière peut-être un peu excessive la semaine dernière. Mais voilà, on reste sur une forme de statu quo, de situation équilibrée, de manière très très instable, mais qui va être très intéressante à suivre, avec notamment les considérations en termes de désistement et de réinscription pour le deuxième tour de tous les candidats. Ce sera mardi soir.
Et oui, parce que ce que le marché craignait le plus, c'était une majorité absolue hein, d'un côté ou de l'autre. Et ce scénario n'est pas encore écarté, mais il n'est pas déjà écrit. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage. On vous retrouve avec vous pour faire le point sur les marchés dans une cinquantaine de minutes. Votre histoire financière est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Voilà, l'obligataire, la prime de risque est toujours bien présente. Il est temps de parler immobilier. Car oui, parce que ces élections vont avoir un impact sur le secteur immobilier. À suivre.
Tout pour investir. La place de l'IMO.
La place de l'IMO, elle est centrale dans cette émission. Elle est centrale dans vos préoccupations d'investisseurs ou de wannabe investisseurs. Et ce matin, pour décrypter, notre paysage économique et politique, c'est Arnaud Accard qui est avec moi. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Président d'IMO Direct. Oui, Marie Cœur de Roy est absente, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous parlons quand même IMO sans Marie, qu'on salue si elle nous regarde. Elle sera de retour dès demain. Bon, on va parler politique, de manière économiquement pragmatique avec vous, Arnaud. On va revenir sur la dissolution qui, évidemment, a provoqué un séisme, mais un séisme qui a de nombreuses répercussions sur l'économie au sein des entreprises et en particulier dans ce qui vous occupe, l'immobilier. Ouais. Votre regard, puisqu'il faut prendre un peu de, comment dire, recul sur les informations chaudes.
Tout à fait. Écoutez, c'est vrai que ça a été un tsunami. On avait vraiment, vraiment besoin de stabilité. Hein. Ça fait 2 ans qu'il y a une crise très profonde, enfin qui est même un peu plus lointaine, mais 2 ans qu'on la voit vraiment, une crise très profonde de l'immobilier. Et c'est vrai qu'on avait besoin de tout, sauf d'une incertitude. Et malheureusement, actuellement, et encore pour une semaine, on ne sait pas trop où on va. Et même après, on n'est pas certain qu'on le sache également. Voilà, donc c'est vrai que dans ce moment où les jeunes actifs, les gens en mobilité professionnelle, les familles qui s'agrandissent, eh bien aujourd'hui n'arrivent plus à soit à acheter un logement, soit à trouver un logement sur le marché. Hein. On a sorti pas mal d'études, on a des chiffres qui sont quand même vraiment impactants pour les locataires.
Un chiffre. Si vous deviez en sortir un de tous ceux que vous avez crunchés,
c'est entre 2022 et 2024 plus 300% de dossiers de location dans les zones tendues. Donc, c'est-à-dire que quand on avait 10 dossiers de location sur une annonce, aujourd'hui, on en a 30. Donc, 30 dossiers de location. Forcément, à la fin, il y a un élu, ça fait 29 déçus. C'est dur.
Ça donne le là.
Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais.
Bon, on va continuer à parler d'inquiétude, malheureusement, parce que les acteurs de l'immobilier sont soucieux. Je dirais tous les acteurs. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'état d'esprit dans lequel vous travaillez? Peut-être rappelez-nous ce que fait IMO Direct et voilà, nous donner le pouls un peu de votre quotidien et de ceux de vos partenaires professionnels.
Nous, ImmoDirect, on est vraiment spécialisé sur la gestion locative et on a lancé également une spécialisation sur la rénovation énergétique qui est quand même également le cœur de la problématique de l'immobilier. C'est ce que j'expliquais sur la gestion locative. On a vraiment besoin que les futurs gouvernants, parce que vraisemblablement, on va avoir un énième ministre du logement, si on en a un, parce qu'il y a eu des époques où on n'en avait même pas. Donc là, il y en avait un. Bon, voilà, vraisemblablement, il va changer. Une fois de plus, nous, ce dont on a besoin, enfin, nous, professionnels, mais également les locataires et bien évidemment les bailleurs, on a besoin d'une ligne directrice, d'une politique qui va, on l'espère, tenir au moins 3 ans, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines grandes élections. Et c'est ça qui est extrêmement important pour nous. C'est vrai que là, depuis 2 ans, tout change tout le temps, quoi. Donc, c'est épuisant.
Tout change tout le temps. Mais la bonne nouvelle, si je peux en voir une, c'est que le logement est au cœur des propositions de programme.
Alors,
les acteurs se sont beaucoup plaints, évidemment, de l'absence de ministre pendant quelques mois, le flottement, le flou, etc. Mais là, au moins, c'est
Il y a même eu un mea culpa de notre ministre de l'économie sur le logement. C'est vrai que, heureusement, dans les programmes, on a l'impression que le logement a été pris en compte. Je ne vais pas faire de politique, bien évidemment, aujourd'hui. Je cite juste 2 exemples.
Ouais.
Le nouveau Front populaire. Bon, moi, ils ont une mesure, la généralisation du prêt à taux zéro pour tous les jeunes actifs. On peut se dire que c'est une bonne mesure. J'espère qu'elle sera reprise d'ailleurs par si c'est pas eux qui passent au pouvoir. Mais à l'inverse, que des gens puissent remettre en cause la loi du ministre actuel, hein, Kasbarian, sur abroger cette loi anti-squatteur, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on manque cruellement de logements à louer. Comment voulez-vous aller rassurer des propriétaires bailleurs en disant « c'est pas grave, demain, on pourra squatter vos logements ». Et puis, une deuxième mesure qu'ils annoncent, c'est plus d'expulsion sans proposition de relogement. C'est-à-dire que là, ça devient quand même un peu simple, quoi. On paye plus son loyer et puis, il se passe rien jusqu'à ce qu'on sache là où on va réhabiter. Donc non, ça, c'est pas possible. Et ça, ce sont des signaux vraiment dangereux pour l'avenir de la location immobilière.
C'est-à-dire que pour vous, l'argument avancé que ce sont les multipropriétaires qui peuvent, grâce à cette loi, mettre tout simplement les gens dehors, c'est faux.
C'est totalement faux, hein. On sait qu'un tiers environ des propriétaires bailleurs sont des retraités. Donc les revenus des loyers, ils n'ont plus d'emprunt et les revenus des loyers viennent compléter leur retraite. Voire composer l'essentiel de leur retraite. Et puis tous les autres, c'est-à-dire les autres 2/3 en haut, ils ont un emprunt. Juste un exemple, on a sorti un produit récemment qui s'appelle la garantie totale des loyers, c'est-à-dire que tous les 15 du mois, nos propriétaires bailleurs qui le souhaitent sont assurés d'avoir leur revenu. C'est-à-dire qu'on va aller anticiper des assurances loyers impayées, on fait un carton.
Vous êtes un réassureur,
On fait un carton. Pourquoi ? Parce que les propriétaires bailleurs ont besoin de cet argent pour payer les charges, payer les emprunts, etc., etc.
Mais au-delà de l'argent, en fait, ils ont besoin de, comme on dit, de réassurance.
Oui, c'est sûr que c'est ce que je dis depuis le début de mon intervention. Il faut maintenant qu'on ait un cap, un vrai cap. Alors, il sera plus à gauche, plus à droite, mais au moins, il nous faut un vrai cap.
Comme dirait Tony Blair, l'important, c'est pas d'être de droite ou de gauche, c'est d'être efficace, c'est que ça marche, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Bon, on va revenir quand même sur la rénovation énergétique. Vous nous disiez que ça vous occupait chez ImmoDirect. Ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, c'est un des points de blocage qui permet beaucoup de débats complètement hors sol dans le cadre de cette élection législative. Est-ce qu'on peut, revenir sur la proposition faite par le RN de, je vais le dire très simplement, faire sauter le DPE, hein ? Comment le prennent les propriétaires bailleurs d'une part, et de l'autre, comment le prennent les professionnels, les professionnels au pluriel, et en particulier peut-être ceux comme vous qui sont occupés à cette rénovation énergétique.
Je ne pense pas que c'est faire sauter le DPE, mais c'est au moins
décaler
les interdictions de louer. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Il faut de l'assouplissement. Moi, je plaide pour ça, parce que de toute façon, on a tous pris de retard, et je vais cibler un des acteurs de tout ce marché qui n'est pas au rendez-vous et qui sont les banques. On va y revenir jusque-là. Mais c'est vrai que cette rénovation énergétique, elle est intéressante pour tout le monde. un locataire, il va payer moins de factures d'énergie, enfin, il va moins consommer d'énergie, pardon, donc diminuer sa facture. Le propriétaire, il va valoriser son bien dans le temps. Les professionnels, bah, finalement, c'est du business pour tout le monde. Il y a des artisans, donc l'État, même si c'est une petite TVA, ça fait toujours de la TVA, ça fait de l'emploi, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, la rénovation énergétique dans ce monde du logement, ça peut être un vrai poumon pour relancer toute cette dynamique du logement. Donc il faut vraisemblablement assouplir. Il y a déjà très peu de logements. On ne va pas pouvoir interdire au 1er janvier 2025 laisser des appartements vides. Mais par contre, il faut mettre une petite contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des offres. Nous, en l'occurrence, on en a une, hein, où on a une garantie de résultat pour gagner deux lettres pour tous les bailleurs, par exemple, qui seront engagés avant le 31-12-2024 et leur laisser 31 décembre 2024, leur laisser 12 mois de répit, par exemple. Mais ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est le financement du reste à charge. Les propriétaires, nous, 80% des propriétaires qu'on a en ligne, et on en a beaucoup tous les jours, ils veulent rénover. Ils en sont conscients. Ils savent que s'ils ne rénovent pas et qu'ils laissent leur logement en G, le logement va devenir, entre guillemets, un peu à la marge. Donc, ils veulent rénover.
Va leur coûter de l'argent, en fait.
Ça va leur coûter, mais ils n'ont pas le reste à charge. L'État fait un effort avec MaPrimeRénov, avec des certificats CE, etc. Mais il reste forcément un reste à charge. Mmh. Et le problème, nous, qu'on a aujourd'hui, j'ai fait le tour de toutes les banques. Il y en a. Alors, tout le monde dit, on va verdir notre bilan, on a des offres, etc. Mais dans le concret, il n'y a pas d'offre pour le financer, le reste à charge. Surtout qu'on est sur un domaine où on pourrait garantir le bon remboursement de ce reste à charge par les loyers. Vous voyez, donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut le prochain gouvernement doit vraiment mettre la pression sur les banques pour prêter ce financement du reste à charge.
Mais pour que les gouvernements mettent la pression sur les banques, encore faudrait-il que ce chantier de la rénovation énergétique reste un horizon.
Il va rester un horizon. On ne peut pas revenir en arrière. Le DPE ne va pas disparaître. Vous, Lorraine, vous voulez louer un logement. C'est ce que je dis à tout le monde. Vous allez cocher G sur le site Se Loger, Le Bon Coin, sans les citer.
Mais si ça coûtait moins cher, peut-être que certains de ceux et celles qui nous écoutent.
Ah oui, alors ça va. Si ça coûte moins cher, mais à ce moment-là, le bailleur, lui, il a aucun intérêt à louer son logement moins cher. Donc c'est une question d'économie. Mais il y a aussi une qualité de vie à l'intérieur de logements rénovés. Hein. Ça, c'est indéniable. Donc, moi, je pense pas que ça va s'arrêter. Enfin, puis il y a quand même la problématique au-dessus de tout ça. C'est quand même la problématique écologique du réchauffement climatique qui est on ne peut pas ignorer. Et donc, il faut qu'on continue et on va continuer dans ce sens-là. J'en suis persuadé. Mais je vous dis, moi, aujourd'hui, tout le monde veut rénover. Le seul problème, qui n'est pas un petit problème, mais c'est le reste à charge, le financement du reste à charge. On a fait des études sur 36 mois. Financer un reste à charge, c'est entre 20 et 30% du loyer. Eh bien, les propriétaires bailleurs, la plupart, pourrait faire cet effort parce qu'en plus en ayant un logement qui va gagner en étiquette énergétique, comme vous l'avez très bien dit, ils vont pouvoir le louer un peu plus cher. Mais tout le monde va s'y retrouver à la fin du compte.
Dites-moi, pareil, dans un souci de chiffrer et déchiffrer l'économie, y compris l'économie du secteur immobilier, si vous pouviez partager un chiffre sur ce chantier de la rénovation énergétique qui vous semble parlant, Arnaud, qu'est-ce que vous nous diriez?
Un chiffre, c'est que aujourd'hui, on n'arrive pas à dépenser 100% de MaPrimeRénov. Moi, ça me désespère. Donc, c'est vrai qu'il y a des dans les programmes, par exemple du camp actuel, une taxe pour sur les rachats d'actions dans les entreprises, en se disant comme ça, avec cette taxe, on va pouvoir rénover 300 000 logements de plus. Ça part d'une bonne intention. Enfin, c'est encore une taxe en plus. Mais déjà, dépensons MaPrimeRénov sans changer les règles du jeu tous les jours. Encore aujourd'hui, il y a deux changements au 1er juillet sur MaPrimeRénov n'est
Lesquels
plus éligible.
Parce que c'est demain le 2 juillet. Le 1er juillet, c'est aujourd'hui, pardon.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut retenir des deux changements imminents?
Il y en a un, c'est MaPrimeRénov n'est plus éligible pour un changement, une rénovation monogeste. Donc, on pouvait en profiter jusqu'au 30 juin. Et vous savez, il y a la fameuse, le nouvel algorithme du DPE sur les surfaces en dessous de 40 mètres carrés qui rentre vraiment en vigueur aujourd'hui. Voilà, ça change tout le temps. Donc, il faut un cadre, il faut une vision et avec tout ça, on va pouvoir rénover le parc de logements français et surtout inciter des nouveaux investisseurs à aller sur ce métier, sur ce marché. C'est ça qui est extrêmement important pour tous les Français.
Les banques aussi que vous appelez à se mobiliser, à travailler aussi sur des offres qui rendraient aussi cette rénovation énergétique plus concrète, plus facile pour les particuliers. Un mot pour conclure sur les pros, sur les auditeurs B2B, peut-être vous, professionnels du logement, quelles sont les attentes? Comment pouvez-vous résumer ce qu'attendent et ce dont ils ont besoin ces professionnels du logement, Arnaud?
Ouais, en deux mots, comme vous me le demandez, dans le domaine de la transaction, il faut libérer les énergies. Donc, première chose à faire, il faut supprimer ce HCSF qui bloque des tas d'accès au crédit de gens qui ont tout à fait le reste à charge.
HCSF, voilà, qui décide du pourcentage auquel vous pouvez vous endetter.
Ça, il faut le supprimer. Moi, je suis un fervent partisan de supprimer l'IFI aussi, bien évidemment, parce que, investir dans l'immobilier pour loger des Français, c'est plutôt quelque chose qui amène de la valeur. Donc ça, c'est pour le côté de la transaction. Je pense que si on fait ça, on va redonner envie. Alors après, il y a plein d'autres éléments, mais les deux premiers, c'est ceux-là qui me viennent à l'esprit. Et puis au niveau de la gestion locative, de l'investissement locatif, effectivement assouplir ces interdictions de louer, mais avec quelques contraintes pour garder cette dynamique. Moi, je pense qu'il est temps de faire un fichier des mauvais payeurs. On sort aussi des statistiques régulières. Alors oui, il y a des escrocs. Il faut vraiment arriver à les éliminer. Après, il y a des gens qui ont des problématiques de vie, etc. Donc eux, il existe des règles pour. Enfin, il faudra mettre des règles pour les remettre ou les sortir de ce fichier. Mais il faut un fichier des mauvais payeurs. On peut pas laisser des gens comme ça, des professionnels du non-paiement du loyer. C'est pas possible. Enfin, nous concernant, nous, professionnels, il faut qu'on réévalue ces... Nous, par exemple, quand on fait de la location, on a des montants de frais de location qui sont figés depuis 2014. 10 ans. 10 ans qu'on facture les mêmes tarifs à la location. Donc,
Vous êtes rentable chez Immodirect?
De moins en moins. De moins en moins. Et à l'inverse, moi, je prône pour finalement rendre obligatoire cette location via des professionnels, parce qu'aujourd'hui, il y a un risque majeur, même pour le particulier qui ne fait pas attention, mais un particulier qui poste une annonce sur un site, il reçoit des dossiers, il reçoit des pièces d'identité, des avis d'imposition.
Il y a un gros sujet de confidentialité, oui.
Non, mais à l'heure où on parle du RGPD partout, nous, tous les jours, on a des candidats locataires, à juste titre, qui nous écrivent « Merci de me confirmer que vous avez bien supprimé toutes mes données, etc. Ouais. » Donc, nous, tout est industrialisé, donc c'est fait. Mais... dans 60 à 65% des cas, la location est faite par les propriétaires en direct. Vous imaginez, vous, votre pièce d'identité, où est-ce qu'elle arrive?
Absolument.
Si la deux cas, soit c'est un escroc et à ce moment-là, il va directement utiliser votre pièce d'identité, soit c'est pas un escroc mais il se fait pirater sa messagerie et votre pièce d'identité, vous savez pas où elle atterrit. Donc, il faut qu'on professionnalise ce métier et bien évidemment, ça amènera du business à tout le monde.
Sujet RGPD intéressant, impromptu dans cette discussion, mais intéressant évidemment, ouais. La voix aussi des professionnels pour automatiser, sécuriser ce secteur de l'immobilier, les échanges entre les particuliers et les particuliers. Et quelques idées. Merci beaucoup pour ce brainstorm, pour cette réflexion. Arnaud Accard, président d'Immodirect, d'avoir avec nous pris le pouls du secteur des professionnels. Voilà le recul qu'on peut avoir dans cette période encore d'incertitude par rapport à la future politique économique du logement et de l'immobilier en France. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous restez avec nous, on marque une rapide publicité et après on s'occupe d'une petite cote, de la moyenne cote. On va parler des petites et moyennes entreprises françaises, celles qui sont cotées. Comment se portent-elles? Les regarder au deuxième semestre? Quel bilan tirer évidemment du premier? Deux experts avec nous pour prendre le pouls là encore et réfléchir à comment faire travailler votre argent au service de l'économie réelle. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Nos experts réunis pour répondre à vos questions. On joue le jeu du direct aujourd'hui dans Tout pour investir. Nous allons nous concentrer sur la cote moyenne et petite. On va parler du CAC mid et small. Pendant plus de 25 minutes, on est en direct. Vous avez des questions, nous aurons des réponses. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Vous m'écrivez comme Adèle et Victorien qui m'ont déjà écrit. Deux experts autour de cette table. On va commencer par vous, Julia Bridger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associée chez Euroland Corporate avec nous pour poser votre regard sur cette cote. Et bien sûr, comment parler des mid et small sans vous, Eric Lewin. Bonjour Eric.
Bonjour ma chère Lorraine.
En chair et en os sur ce plateau. Incroyable.
Pour une fois, pour une fois.
Rédacteur en chef des publications Agora, avec nous usuellement le mardi. D'ailleurs, vous serez avec nous aussi demain pour le journal des mid-cap. Aujourd'hui, c'est plus qu'un journal, c'est un zoom, un concentré. Une petite question politique, évidemment, pour démarrer. On est en direct, nous sommes le 1er juillet pour vous qui nous suivez, évidemment, à la radio, à la télé, sur le web. Et puis, pour vous qui nous écoutez en podcast ou en replay de manière délinéarisée, on voudrait avoir votre regard à chaud, Eric, sur l'impact de l'instabilité politique sur nos petites et moyennes entreprises.
Mais écoutez, l'impact est ultra positif aujourd'hui puisque le CAC Small regagne à l'heure où je vous parle 4%. On avait perdu 15% en l'espace d'un mois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui fait très peur aux investisseurs. C'était bien sûr le programme du front de gauche qui était extrêmement mauvais, non seulement pour les Small mais également pour l'économie française, avec une dérive budgétaire et sans doute une forte inflation. Le programme du RN n'est pas exceptionnel non plus, avec notamment une augmentation des bas salaires qui pourrait faire perdre des parts de marché à nos PME. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme on se rend compte que la majorité absolue sera quand même difficile à l'heure où je vous parle, parce que c'est vrai que les candidatures, je crois que c'est demain soir qu'on aura les candidatures définitives pour le second tour, comme la majorité absolue apparaît difficile pour le RN, eh bien finalement, en général, la bourse déteste l'incertitude. Là, on a l'impression que la bourse adore l'incertitude. Elle ne veut pas de majorité absolue, ni très à droite, ni très à gauche, et donc elle se satisfait un petit peu d'une espèce de majorité relative où on se dit que peut-être, si c'est le RN qui l'emporte, et c'est le RN sans doute qui va l'emporter, il y aura des accords de circonstances avec certains LR qui feront qu'il y aura peut-être un gouvernement d'expertise. Et donc, c'est la moins pire des choses. Et donc...
Gouvernement d'expertise, manière de dire qu'on aurait un gouvernement de techniciens.
On peut avoir un gouvernement de techniciens, comme on avait eu à l'époque Macron avec Castex, qui n'était pas un politique, mais plutôt un technicien. Mm-hmm. Alors, sur les small, juste un mot, j'ai pas envie de piquer toutes les données à Julia, qui me regarde avec effarement et avec effroi. Oui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que le CAC small avait quand même perdu 15% en l'espace d'un mois. On n'était plus plutôt très bien parti, puisque fin mai, on avait fait une chronique ensemble. Je vous disais que le CAC Small était nettement en avance. Je crois qu'on était à plus 7, plus 8 depuis le début de l'année. Là, on doit être à moins 3, moins 4. Donc, ça fait du bien. Attention quand même, parce que sur les taux, ce matin, on était à 3,27. Là, on remonte actuellement à 3,32, 3,33. Je suis pas sûr qu'on monte vraiment en ligne droite là. Et je pense que je le dis tout le temps, je l'ai dit partout, je pense que jusqu'au lundi 8, il ne faut rien faire sur les marchés et ne pas tenter quoi que ce soit. Même si quand on voit du plus 4 ce matin sur le CAC Small, on se dit qu'il faut peut-être y aller. Mais non, il ne faut rien faire, ma chère Lorraine.
Pour les marchés ce matin, c'est la victoire du scénario du moins pire. Je cite évidemment John Plassard pour Mirabeau qui résume ce que vous nous dites, Eric, c'est que le marché, ce qu'il craignait, c'était une majorité absolue d'ores et déjà là, à l'issue du premier tour, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Julie, avez-vous un regard sur cette situation ?
Oui, en tout cas sur les small, pour parler plus précisément des small, c'est vrai que la dissolution a été un coup d'arrêt sur la remontée des marchés, parce qu'on avait eu un mois de mai très positif. Ce qu'on a pu constater sur ce marché, c'est surtout un arrêt des liquidités. C'est vrai que le marché avait redémarré, puisque les gérants et tous les fonds de la catégorie small mid-cap avaient réussi à recollecter de manière assez significative, contrairement aux 5 dernières années. Et là, en 3 semaines, ils ont re-eu de la décollecte de manière massive, ce qui a entraîné des flux vendeurs assez significatifs et donc une chute comme un mini crack avec moins 15% en 3 semaines. Donc on va être très attentif pour voir dans les prochaines semaines si cette instabilité, ou en tout cas cet attentisme, va permettre de refaire de la collecte auprès de ces fonds small mid cap qui va permettre de pouvoir rejouer cette classe d'actifs.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter le bilan non seulement des dernières semaines mais peut-être aussi du premier semestre, puisque nous sommes le 1er juillet? Premier semestre derrière nous. Eric, que faut-il retenir ?
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une forte décote en termes de valorisation entre les small et les mid. et les small et le CAC 40 de l'ordre de 25 à 30%. Mais sinon, ce que je retiens, moi, c'est toutes les OPA qui ont été très nombreuses au cours du premier semestre avec des primes entre 35 et 40%. Je chausse mes lunettes parce qu'à mon âge, on porte des lunettes pour lire. Et je peux vous dire qu'on a eu OPA sur Belive, sur Micropole, sur Neoen, sur Esmosis, Ores Technologies, Clasquin, Visiative. Il y a beaucoup d'opérations financières. Neoen, il y a beaucoup de sociétés. Il y a beaucoup de sociétés qui sortent de la cote parce qu'ils se rendent compte que dans le monde du private equity, on le dit chaque semaine, elles sont mieux valorisées. Mmh. Mais d'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que comme les primes sont importantes, ça me fait dire que même s'il n'y a pas une performance exceptionnelle sur le premier semestre, au moins, quand il y a des primes, les actionnaires sortent avec entre 30 et 40%. À noter, mais Julia connaît ça bien mieux que moi, qu'il y a eu simplement deux OPA, Planisphère et Exosens.
IPO.
Deux IPO, Planisphère et Exosens sur les marchés avec des levées de fonds en tout de 700 millions d'euros. Mais là, c'était sans les particuliers, puisque maintenant, il y a une directive qui fait qu'on peut se passer les particuliers lors des opérations financières. C'est bien peu. Moi, je me rappelle qu'en 2006, 2007, 2008, il y avait en moyenne 40 IPO par an. Là, on en a seulement deux, donc c'est vraiment une tristesse et on a le sentiment que ça pourrait repartir sur le second semestre, à condition que toutes les conditions économiques soient enclenchées, c'est-à-dire un gouvernement stable, des investisseurs qui reviennent, parce que j'ai oublié de le dire, mais je crois que jeudi, il y a une adjudication sur la dette française qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention.
Ces entrées en bourse, ces IPO, merci pour la correction du lapsus intéressant d'Eric, entre IPO et OPA.
Il y en a tellement peu que je parle d'OPA tout le temps.
Des IPO, pour compléter le portrait de ce premier semestre sur la cote moyenne et petite. Julia, qu'est-ce que vous ajouteriez ?
Non, effectivement, le phénomène du premier semestre, ce sont les OPA. Ce que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Eric, c'est que ce semestre, ce qui est intéressant, c'est que les OPA proviennent essentiellement d'industriels. Donc, ce sont les industriels qui sont venus faire leur course sur le marché financier, alors que les années précédentes, on était plutôt sur des fonds de private equity avec des relutions des managers. Là, ce sont les industriels qui ont fait leur course. Pourquoi ça a été permis aussi ? Puisque les conditions de crédit ont pu permettre à ces groupes de faire des financements et de racheter ces sociétés. Donc là, c'est vrai que ça va être intéressant de voir si sur le deuxième semestre, il va y avoir cette frilosité compte tenu du contexte en tout cas instable. Ce qu'on entend en tout cas depuis la dissolution, de par tous les avocats de M&A et de toutes les banques d'affaires, c'est que tous les process sont en suspens. Le lendemain de la dissolution, toutes les opérations de rachat, de cession ont été mises en suspens, soit parce que les financements sont compliqués, soit parce qu'évidemment les acquéreurs attendent de voir quels vont être les impacts sur la valorisation, sur les perspectives des sociétés qu'elles souhaitent racheter. Donc ça, c'était un élément important.
Voilà, le point sur les OPA et les IPO. On va continuer à parler de cette thématique avec vous deux. Eric, vous êtes friand de ce genre de format. Les up, les down, ceux qui sont au top, ceux qui sont au fond du seau. Si on doit porter rapidement, faire un top, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Alors, il y a deux boîtes que j'ai sélectionnées dans les up. C'est Arcur. Qu'est-ce qu'ils font ? Une technologie de détection de piétons dans les sites industriels. Chiffre d'affaires plus 40%, marge brute à 40%, méga contrat avec ArcelorMittal, plus 95% sur le semestre. C'était la bonne surprise. C'était une boîte qui était complètement délaissée. Et puis je surveille aussi Gerbet, plus 80%. C'est des produits de contraste pour la radiologie. Ils avaient été génériqués, c'est-à-dire que leur produit vedette avait été était tombé dans le domaine public, donc ils avaient perdu beaucoup de parts de marché. Il y a un nouveau produit qui marche très bien, c'est l'Elucirem. Bon, je vais pas revenir sur cette histoire médicale, mais disons qu'ils ont un pricing power parce qu'il y a eu une augmentation du prix de l'iode l'an dernier qu'ils ont réussi à répercuter sur leurs clients. Et donc, ce sont les deux bonnes nouvelles du semestre. Deux dossiers d'ailleurs sur lesquels on peut continuer à être positif. Et du côté des mauvaises nouvelles, c'est toutes les boîtes à OCAPSA. Vous savez, les financements ultra dilutifs, c'est un truc que je déteste. Je m'énerve chaque fois sur tous les plateaux télé possibles et inimaginables. Vous avez Neovax, moins 99%. Vous avez du Pharnex, moins 99%. Vous avez du Cybergun, moins 98%. Je dis dans le blanc des yeux à nos amis auditeurs, téléspectateurs, n'allez pas sur ces dossiers horribles. Je répète une dernière fois, je ne comprends pas pourquoi l'AMF ne légifère pas et n'interdit pas ces produits qui sont ultra dilutifs et qui provoquent la ruine des actionnaires. Pourquoi ? Parce que dans ce cas de figure, souvent, vous avez un PDG qui a un salaire entre 500 000 et 1 million d'euros. Sa boîte ne marche pas, mais lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est qu'il garde son salaire important. Il n'est pas actionnaire et donc il dilue. Et c'est la ruine des actionnaires. Et puis un deuxième dossier, ça me fait un peu de peine parce que j'aimais beaucoup le patron, c'est Valbiotis. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Alors c'est des espèces de compléments alimentaires pour lutter, cholestérol, diabète, etc. La boîte perd 77% en un semestre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un gros contrat avec Nestlé Health Science. Moi, j'étais sûr, j'aurais mis ma main au feu, qu'ils allaient être rachetés par Nestlé Health Science, eh bien, patatras, il y a deux mois, ils annoncent que Nestlé Health Science a une autre idée de diversification et donc arrête le contrat. Le titre perd 77%. Et la grande problématique de Valbioti, c'est que les produits sont intéressants. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus qu'un an de cash dans les caisses. Donc, ça vaut un 17. Donc, je suis un peu inquiet sur cette société. Mais c'est dommage que le patron de la boîte, Sébastien Pelletier, franchement, c'est un mec bien. Mais je pense qu'il n'a pas eu de chance. Vous voyez, il y a des patrons qui sont des menteurs et des salopards qui racontent n'importe quoi sur leur société. Lui, franchement, il n'a pas eu de chance. C'est dommage. Donc, Valbiotis, c'est mon dernier down de ce semestre.
Eric Lewin qui regarde les patrons et les auditeurs au blanc des yeux et puis qui vous parle aussi à vous, auditeurs, dans le creux de l'oreille, n'est-ce pas? Cher Julia, est-ce que vous avez aussi un top que vous voulez partager avec nous, peut-être plus sur des small?
Oui, sur des small ou mid. C'est vrai qu'il y a une société qu'on apprécie beaucoup chez Orland Corporate, c'est la société LDC. LDC, c'est le spécialiste traiteur et de la volaille qui a surperformé très fortement son marché, qui ensuite, en plus s'est remis à la chasse aux acquisitions puisqu'ils ont annoncé dernièrement des acquisitions, notamment sur leur activité traiteur. Et puis, c'est une activité très internationale. Alors, dans le contexte actuel où on sait que les gérants vont essayer de se focaliser sur les sociétés dont l'activité en France est minoritaire, oui. LDC fait partie de ces sociétés qui exportent beaucoup, qui ont des filiales à l'étranger et qui sont donc peut-être un peu moins soumis à l'instabilité politique en France.
Côté down,
j'en ai pas préparé.
Bon, c'est pas le café du commerce.
Non, parce qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de baisses de sociétés ces dernières semaines depuis la dissolution. Donc voilà, c'est important de voir un peu les publications semestrielles.
Elle est que positive, Julia. Elle regarde que le côté toujours positif. Non, mais c'est bien. Attendez.
Il en faut dans ce contexte. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, on a parlé de Neoen, de Believe rapidement, d'Ores. Qu'est-ce qu'on peut dire en détail sur quelques dossiers qui intéressent sans aucun doute nos auditeurs, nos auditeurs.
Sur les anciennes OPA, vous voulez dire? Non, le dossier marquant de ce premier semestre, c'est Micropole, spécialiste de la business intelligente, business intelligence avec de la data. Le cours se traînait à 1,10€, 1,15€. Il y a l'ancien patron de Valtech qui fait une OPA à 1,50, puis les titres ne cessent de monter. On a Aubay qui prend 2%, et finalement, il y a Talent qui fait une opération financière à 3,12. Hein, je vous rappelle que l'action était deux mois avant à 1,10€, donc on fait un x3 quasiment sur ce dossier. Et moi, ça me fait dire quoi? Ça veut dire que ce qui est intéressant dans notre compartiment, dans le monde des micros et des small caps, je parle des boîtes qui valent en dessous de 200 millions d'euros, comme elles sont peu connues, suivies par quelques analystes de type Julia chez Roland, enfin qui n'est pas analyste mais qui suit très près tous ces dossiers, il y a souvent des très bonnes surprises avec de forts effets de levier, ce qu'on n'a pas dans le monde des grosses capitalisations où quand vous avez une opération financière, je ne dis pas qu'elle est connue de tout le monde, mais il y a une prime de 15%, de 17%, c'est compliqué, on paye en papier. Là, ce n'est pas du tout le cas dans le monde des small et mid, ce qui me fait dire que sur ce second semestre, juste un peu de prospective, je pense que les opérations financières vont continuer dans ce monde des small et mid avec des patrons qui souvent dans certains secteurs, je pense notamment au secteur informatique, ont largement dépassé la soixantaine, donc seraient peut-être tentés de vendre leur société. Et puis quand ils voient le monde du private equity, hein, le monde du non-coté, où vous valez entre 25 et 30% plus cher, sans toutes les contraintes réglementaires, sans toutes les contraintes liées à la communication financière, sans ces obligations de publication de résultats, vous dites que vous êtes mieux dans le domaine du non-coté. Donc pour moi, l'ES2, ça va rester un semestre où il va y avoir encore beaucoup, beaucoup d'opérations financières. Reste à savoir si ça sera contrebalancé par des IPO. Julia est mieux placée que moi pour parler des futures IPO parce que j'ai pas tellement de visibilité. Espérons qu'il y en ait parce que c'est vrai que la cote quand même depuis 15 ans s'appauvrit vraiment.
Julia, on a beaucoup parlé dans cette émission depuis le mois de septembre de la compétition pas forcément toujours très bien verbalisée entre le private equity et la cote qui nous occupe aujourd'hui. Votre regard sur cette compétition, et avant ça, est-ce qu'on peut revenir, comme Eric vient de le faire, sur une OPA ou deux qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont occupé? Vous reveniez sur Neoen, qu'on ne peut pas ne pas
citer. Oui, Neoen, elle a été significative, parce que c'est dans un secteur aussi qui a été très prisé ces dernières années, puis c'est une IPO finalement assez récente. Donc en fait, c'était intéressant de voir que la société a pu sortir de cote assez récemment après son introduction en bourse. Micropole est important parce que c'était la première OPA hostile. Alors sur les small caps, on a tendance à dire que c'est très compliqué de faire des opérations hostiles parce que souvent le management contrôle le capital. Là, on a vu que malgré le fait que les dirigeants avaient 21% des droits de vote, il y a pu avoir une OPA hostile qui s'est bien finie pour eux parce qu'ils ont été chercher eux-mêmes l'acquéreur avec une grosse prime. Et puis on a pu voir des sociétés plus petites comme Osmosis qui sont des sociétés effectivement qui étaient dans le wifi dans le camping, avec des dirigeants qui ont eu 60 ans, et là on arrive effectivement à une sortie pour se projeter, parce que les dirigeants arrivés à 60 ans avaient envie de se projeter ailleurs, et donc ont vendu à un groupe industriel qui est le groupe Passman à Lyon, qui est lui-même financé par des fonds de private equity. Maintenant les IPO, c'est clair que déjà sur le premier semestre on a eu quand même très très peu d'opérations financières. Il faut voir sur les small et mid cap, les opérations de levée de fonds ont été très peu significatives. Lorsqu'elles ont eu lieu, c'est souvent elles ont fait l'objet de garanties auprès d'un certain type d'investisseurs, c'est-à-dire que les investisseurs qui s'engageaient à souscrire à ces opérations percevaient une rémunération. Alors là, c'est quand même assez rare, parce que généralement on ne paye pas des investisseurs pour souscrire à une opération, mais vu le contexte qui était extrêmement difficile pour ces sociétés, elles étaient obligées pour lever des fonds de payer certains investisseurs entre 5 et 7% du montant qu'elles mettaient pour que l'opération soit un succès. Donc on a observé beaucoup d'opérations de ce type-là au cours du premier semestre, beaucoup d'opérations aussi avec maintien du droit préférentiel de souscription, puisque finalement les sociétés font appel à leurs actionnaires historiques qui les suivent depuis longtemps, notamment les particuliers qui, on sait, sont fidèles dans ces opérations pour souscrire, et on a vu beaucoup moins de placements privés. Le S2 s'annonce aujourd'hui, en tout cas toutes les opérations qui étaient en cours, on nous dit que c'est décalé, que les gens vont attendre septembre pour voir si le marché se stabilise, pour voir si les fonds se permettent de recollecter et de pouvoir investir sur des nouveaux supports tels que des IPO ou des opérations d'augmentation de capital.
Voilà le regard qu'on peut déjà porter sur ce deuxième semestre, en fait, qui va démarrer en septembre.
Oui, vraisemblablement.
On a plusieurs
auditeurs. Moi, je voudrais juste vous citer quand même
allez-y, Eric.
Certaines OPA qui pourraient avoir lieu. Moi, je pense par exemple à des dossiers comme Itelink, comme Nam Air. Peut-être même une société comme Aubay, qui est une très belle boîte informatique. On cite toujours Infotel dans le secteur informatique. Non, je voulais donner ça pour donner un peu de victuailles à nos amis téléspectateurs pour citer quelques dossiers. Je pense que ça peut sortir. Je pense aussi peut-être dans le monde du e-commerce, LDLC, qui a des problèmes de rentabilité mais qui a quand même un chiffre d'affaires très important, pourrait intéresser un gros du secteur. Voilà, alors vous allez me dire toutes les sociétés sont opéables dans le monde des small et mid, mais je crois qu'on peut regarder de près ces 5 sociétés qui pourraient, alors je dis pas au S2, mais il faut quand même peut-être commencer à les regarder, parce qu'il pourrait se passer des choses sur ce genre de sociétés.
Un mot sur cet âge symbolique que vous avez évoqué chacun à plusieurs reprises, les 60 ans. Beaucoup de patrons et de patronnes peut-être de ces entreprises de petite et moyenne taille qui sont pour des indépendants, pour des professions libérales, pas forcément à l'aube de leur retraite, hein, parce qu'à 60 ans quand on est dirigeant, parfois on est loin de prendre sa retraite si on la prend un jour. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un changement de mentalité, un changement de rapport aussi à la cote avec une nouvelle génération qui pourrait arriver un petit peu plus jeune, avec des codes peut-être différents, Julia, pour démarrer?
Bon, on l'espère effectivement. Alors c'est vrai que l'âge des 60 ans, il est, on l'a constaté ces 10 dernières années, ça s'est rajeuni sur les sorties de cote. Souvent, on pouvait attendre une sortie de cote où les dirigeants restaient impliqués bien plus longtemps. Là, c'est vrai que voilà, on vit plus longtemps. Ils ont envie aussi, souvent, les dirigeants de profiter d'autres choses après avoir consacré beaucoup d'années à leur entreprise. Et c'est vrai aussi que sur les nouvelles introductions en bourse, Eric, tu citais Neymar dans le cadre d'une OPA, mais c'est pour lui une femme qui est la directrice générale, une femme d'une quarantaine d'années. Donc, on a vu des profils de dirigeants plus jeunes et on espère effectivement que les prochaines IPO feront venir à l'instar de ce qu'on peut voir aux États-Unis.
Avec juste un bémol, la grande problématique, c'est par exemple dans le monde de la French Tech où il y a des jeunes, eux, ils préfèrent de très très loin le monde du private equity où encore une fois il n'y a pas du tout de contraintes et où ils peuvent avoir des valorisations nettement supérieures.
Il y a des contraintes quand même.
Oui, il y a des contraintes.
Il y a des contraintes avec les fonds, mais il n'y a pas les contraintes qu'on peut avoir quand on est coté vous savez, quand vous êtes coté, Julia pourra rebondir facilement, vous avez une capitalisation de 50 millions d'euros, c'est très compliqué, il faut payer un analyste, il faut payer le listing sponsor, il y a la communication, il y a la publication de résultats. Ça coûte quand même quoi, entre 200 et 300 000 euros par an? Vous n'avez pas ça dans le monde du private equity. C'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on peut avoir.
Après, ce qui est important, voilà, la bourse par rapport au private equity, c'est déjà l'indépendance. Son dirigeant peut se constituer son conseil d'administration et peut s'entourer des personnes avec qui il souhaite. Et puis le private equity, il faut faire attention, quand tout va bien, tout le monde gagne et les alignements d'intérêts sont clairs entre les fonds et les dirigeants. Mais dès que ça ne va pas, là, il y a un désalignement d'intérêts qui est réel entre les dirigeants et les fonds. Et on a pu voir quand même ces dernières années sur toutes les levées de fonds avec les ventures capital, il y a beaucoup de sociétés qui ont été à la casse puisqu'à un moment, les fonds ne pouvaient plus suivre.
Non mais moi, ce n'est pas un plaidoyer, encore une fois, pour le private equity. Moi, je préfère de très très loin les boîtes cotées parce que sinon, je n'ai plus de boulot. Donc, non mais faut être
peut-être
clair.
Peut-être que vous aussi, vous avez
simplement, je dis qu'il y a beaucoup de, dirigeants d'entreprises, notamment jeunes, qui préfèrent rester dans ce monde du private equity, qui les fait plus rêver que dans le monde de la bourse où très souvent il y a des déceptions. Et quand on regarde par exemple sur 5 ans le CAC 40 et quand on regarde le CAC Small, il y a un écart de 40 points. Donc quand vous voyez ça, vous restez dans le private equity. Mais encore une fois, messieurs les présidents d'entreprise, il faut venir en bourse.
Messieurs et dames, s'il vous
messieurs,
plaît,
dames, pardon.
Dans ce monde
être c'est mon côté machiste, c'est pour ça. Oui.
Effectivement, l'indice CAC Mid et Small, croissance, performance à 11% depuis 5 ans, 55% pour le CAC 40. On est en direct, plusieurs auditeurs et auditrices nous suivent avec attention et nous soumettent des valeurs pour passer dans votre radar à tous les deux, Julia et Eric. Victorien nous a écrit en début d'émission, il aimerait votre regard sur Delphingen. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fait cette entreprise? Peut-être Eric pour démarrer.
Écoutez, alors Julia connaît mieux la société, alors, parce que je crois qu'il les suit. C'est un équipementier automobile.
Dans l'électrique.
Dans l'électrique, qui est plutôt très bien positionné. Après moi, ma grande inquiétude, et après je laisserai détailler beaucoup plus Julia, c'est que je trouve que c'est assez compliqué la voiture électrique en ce moment. Il y a beaucoup de concurrence, on sent très bien qu'il y a une déflation, on sent très bien qu'il y a des gens comme Tesla qui arrivent en baissant les prix. Et donc c'est vraiment pas un secteur que j'ai envie de jouer en ce moment, même si sur Delphingen, il y a un aspect capitalistique à ne pas négliger.
Julia, Delphingen, effectivement, ils ne sont pas positionnés que sur l'électrique. Hein, et notamment, ils ont essayé ces dernières années de diversifier leur activité grâce à leur technologie et à leur gaine plastique et textile qu'ils ont fait. C'est une société qui s'est beaucoup construite par croissance externe. Une entreprise familiale, je crois que Gérald Sret, le président, est la troisième ou quatrième génération de la famille. Et une société, effectivement, qui là souhaite se concentrer sur la génération de cash après toutes les acquisitions qu'ils ont observées, vu qu'on est quand même dans un contexte du marché automobile compliqué. On a vu encore les chiffres des immatriculations en France, c'est pas forcément évident, mais c'est une société internationale, c'est une société effectivement avec à sa tête un groupe familial et un management de qualité, et une société qui fait attention à ses ratios financiers et qui cette année a dit se concentrer sur la génération de cash, le désendettement et donc stabiliser ses investissements, et qui offre du rendement généralement chaque année.
Voilà, cher Victorien, notre regard sur Delphingen. Un mot d'Adèle qui nous demande votre regard sur Trigano. Ça, vous nous en avez parlé depuis le début de l'année, de Trigano. Eric, en quelques mots.
Non, mais Trigano, j'aime bien. Vous savez, il y a des nouvelles façons. Vous savez, on parlait des seniors, mais maintenant, les retraités en France meurent 26 ans après leur départ à la retraite. C'était 12 ans il y a 20 ans et c'était 4 ans il y a 40 ans. Donc il y a des nouvelles façons de consommer. Et moi, donc, il y a deux dossiers sur lesquels je suis assez positif dans le secteur. Il y a Trigano, les mobile homes et tout ce qui concerne ce genre de produits. Mais il y a aussi Fontaine Pajot, qui est un dossier qui me paraît complètement décoté. Je crois qu'en VE sur EBITDA, ça vaut deux fois. Et c'est vraiment un dossier intéressant parce qu'il y a de plus en plus de retraités qui n'ont plus de résidence secondaire, qui vont soit dans les mobile homes Trigano, soit sur les bateaux Fontaine Pajot. Donc ces deux dossiers, j'ai rajouté la question sur Pajot qui n'était pas posée.
Non, merci,
ces deux dossiers sont vraiment des dossiers très intéressants dans le secteur.
Un mot de Sword aussi, Adèle nous demandait votre analyse là-dessus.
Sword, société du service informatique très intéressante, qui elle a son activité 100% à l'étranger, aucune activité en France puisqu'ils avaient cédé leur dernière filiale service qui était en France il y a ces dernières années, et qui a annoncé ce matin, qui a fait de l'actualité puisqu'ils ont annoncé deux croissances externes ce matin en Écosse. Deux petites sociétés, une dans la cybersécurité et une deuxième acquisition dans l'IA, l'intelligence artificielle. Donc société, donc une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Société très rentable qui surperforme très largement en termes de rentabilité, en termes de croissance organique toutes les sociétés de son secteur. La performance ces 10 dernières années est assez impressionnante, et une société de rendement et qui est très agile. agile en termes de M&A, puisque le dirigeant n'hésite pas à vendre les activités lorsqu'elle en a un bon prix et en acheter de nouvelles.
Et puis juste sur Swords, ce qui est intéressant, le PDG, moi je l'avais rencontré à Lyon, il a plus de 70 ans et c'est l'inverse de ce qu'on disait, parce que lui veut absolument rester à la barre. Il m'avait dit, pourtant il est très riche, je ne sortirai jamais de ma société. Donc vous voyez, il y a quand même des présidents qui, même s'ils sont âgés, veulent rester à la tête de leur entreprise.
Voilà, Jean-François Dancy, qu'on salue, qui est un auditeur fidèle, nous demandait des nouvelles de Valbiotis. On l'a fait. On a fait autant qu'on pouvait dans le temps qui nous était imparti. Un zoom, voilà, sur ces petites et moyennes valeurs. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Merci Julia Bridger, associée Roland Corporate. Et merci Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, qu'on retrouvera demain dans notre journal des mid-cap. C'est pas parce qu'on en a parlé aujourd'hui qu'on peut pas en reparler
finalement,
demain.
On parlera de la semaine.
Le journal. Et puis on verra comment voilà, cette journée post-élection a été digérée par la cote petite et moyenne avec vous demain. D'ici demain, il y a avec vous, avec Sandra Gandon qui vient prendre les manettes. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Quel est le programme de l'émission du jour ?
Toutes les questions que vous allez nous poser sur la vie en entreprise, par exemple, évidemment, quel est l'impact de ces élections sur le monde de l'entreprise, les organisations, mais aussi d'autres questions. Mon employeur peut-il m'interdire de passer à la télé ? Ça arrive, il y a de très bonnes émissions.
Ça nous arrive sur certains
écrans. Oui, c'est vrai. Je voudrais créer un lieu pour accueillir du public, un restaurant, voilà, ce genre de choses. Quels sont les pièges à éviter ? Voilà, on répondra à ce genre de questions. Patron, salarié, indépendant, on est là pour vous. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr.
Amaury de Tonquédec prendra les manettes à 15h pour BFM Crypto, le club. De quoi allez-vous parler aujourd'hui, cher Amaury ?
Bon, très rapidement, un mot des législatives, parce qu'on avait des candidats pro-Bitcoin. Voilà, on fera un peu le point sur ce qui s'est passé. On parlera de paiement en Bitcoin, parce qu'à côté de Bordeaux, maintenant, on pourra bientôt payer en Bitcoin. Et puis, c'est l'entrée aujourd'hui même de MiCA, Marketing Crypto Asset, le règlement européen qui régule les stablecoins, et ça va changer beaucoup de choses pour vous, donc n'hésitez pas à nous écrire.
Vous pouvez joindre Amaury, vous pouvez évidemment suivre en direct à 15h BFM Crypto le club. C'est aussi à retrouver à 21h30, juste après Tech & Co. Puis vous le savez, comme l'ensemble de nos programmes et de nos séquences, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast et en replay. Tout pour investir, c'est fini. On sera là demain. On va s'intéresser aux placements, les placements réels qui rapportent même dans ces périodes troubles. Et puis on touchera aussi un mot de marché de l'art. Quelles sont les tendances? Le marché à 6 mois de l'art. Et oui, on n'est pas obligé de parler que de politique. On parlera aussi d'investissement dans l'art demain, dans Tout pour investir. Rendez-vous demain. Merci à toute l'équipe.
Tout pour investir sur BFM Business.